Bonjour à tous. Ceux que je n'ai pas pu saluer peut-être jusqu'à maintenant, mais soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur et sommes heureux de pouvoir nous entretenir ensemble de quelques extraits de la parole de notre Seigneur, car il est grand notre Dieu, nous venons le chanter. Et je me souviens d'un cher frère missionnaire qui me disait, est-ce que tu sais quels sont les grands hommes pour Dieu? Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Ce sont les hommes forts de Dieu. Ceux qui se réjouissent de la grandeur de Dieu, et vous trouvez cela en Ésaïe, chapitre 13, verset 3. C'est gravé dans ma mémoire, ça. Voulons-nous être forts, alors nous nous réjouissons de la grandeur de ce Dieu d'éternité qui nous a fait connaître par Jésus un cœur tendre et bon. Alors avant de vous dire les quelques mots que j'ai mis sur ce papier-là, je voudrais que nous chantions le 318 d'À toi la gloire, un cantique qui est cher à notre cher Jean-Luc, je crois. Nous chanterons les trois premières strophes du 318 de À toi la gloire, je ne sais. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais il y a une chose que nous savons et que nous partageons tous. Alors chantons ce beau cantique, je ne sais pourquoi, dans ta grâce, tu m'as tant aimé, Seigneur. Sa parole et son Église. Seigneur, merci de nous recevoir dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu as trouvé un moyen unique afin que je sois sauvé, afin que nous soyons sauvés. Il te plaise, au travers de ta parole, de nous rendre encore davantage confiants et fidèles. Confiants parce que tu nous aimes. Confiant parce que tu nous as fait des promesses et nous avons besoin, Seigneur, d'être fidèles à ta sainte parole, Nous appelons notre Dieu à notre aide et lui rendons hommage par avance, parce que tu le feras au-delà de ce que nous pouvons même te demander. C'est au nom de Jésus que nous avons osé nous exprimer devant ce grand Dieu des cieux et de la terre. Amen. Alors, j'ai choisi un titre un peu particulier, être chrétien, qu'est-ce que c'est? Pour la plupart d'entre nous, mais la réponse est aisée. Et cependant, un retour aux questions fondamentales mérite d'être considéré et reconsidéré. Alors, nous connaissons bien ce passage de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, et je veux le lire dans la traduction Tob, la traduction œcuménique de la Bible. C'est au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, et au verset 8, Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. Je répète, la traduction théorbée, vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. Et en outre, le Seigneur précise, en Jean chapitre 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et encore, nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Jean 6, verset 44. Tout est l'œuvre de Dieu en nous. Tout est l'œuvre de Dieu en vous. Tout est l'œuvre de Dieu en toi, si tu le veux. Le Seigneur ajoute, celui qui m'aime, cela aimait de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Évangile de Jean, chapitre 14. C'est donc par amour, et dans un amour réciproque, que l'invisible se manifeste. Je me manifesterai à lui. Vraiment extraordinaire, vous ne trouvez pas? Vous pourrez croire que nous n'avons plus rien à faire, tout est de Dieu. Bien au contraire, refuser d'ouvrir son cœur à une offre aussi généreuse ne serait-ce pas un mépris, d'un mépris impardonnable. Ouvrir personnellement son cœur pour laisser entrer la lumière de Dieu. Cette lumière, c'est Christ. Jean 8, verset 12. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et dès qu'on laisse Christ entrer dans son cœur et y rester, la déclaration de Jean, chapitre 1, et là nous pouvons le lire, c'est au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit » dans d'autres traductions, le pouvoir d'être enfant de Dieu, savoir ceux qui croient en son nom. Maintenant, une anecdote. Un jour, un pasteur a posé la question à un autre pasteur lors d'une émission TV que je regardais à ce moment-là. Et pourtant, la vie du premier était toute empreinte de charité envers le prochain. Mais il a posé à son collègue, sauvé de quoi? Vous, les pasteurs, vous annoncez l'évangile, vous annoncez que vous voulez être sauvé, mais sauvé de quoi? Son interlocuteur paraissait à court. Il n'a pas pu répondre, il n'a pas eu le temps. L'émission se terminait. Nous avons conscience d'être sauvés par grâce, bien que l'on sache qu'une échéance est réservée à tous. Mais cette idée de disparaître, que tout est fini à un moment donné, nous est insupportable. Et par ailleurs, la vie n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas ce salut de Dieu. Nous tous, sauvés par grâce, avons été suscités comme des témoins. Je devais avoir la liberté de dire à mon prochain, « Quel qu'il soit, savez-vous que je suis sauvé ?» J'étais perdu, maintenant je suis sauvé. Le Seigneur m'a pardonné toutes mes erreurs, il m'a délivré de tous mes péchés, il m'a tout pardonné. Un seul livre me l'atteste. Son contenu est fiable, il ne comporte aucune erreur, c'est un livre unique, la Bible. Il y a bien des exemples simples sous la forme d'images qui nous permettent de comprendre cela d'emblée. L'essentiel de son contenu est à la portée d'un enfant. Le Sauveur unique a été donné à l'humanité, n'est-ce pas ? L'évangile de Matthieu révèle la naissance du Sauveur, annoncé par les prophètes. Tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Et donc, sauvé d'avoir été désobéissant à Dieu, méritant la condamnation, car Dieu ne peut voir le mal sans le punir, sans le condamner. Mais tous ceux qui l'ont reçu, vous et moi, ont entendu cette injonction, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous, croyez en l'Évangile. Et Jean confirme au chapitre 1, verset 29, Jean voyant Jésus venir à lui déclare, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance, notamment en Ésaïe 53. Le verset 6 déclare, « L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et encore, « Il a porté le péché de plusieurs. » Un peu plus bas dans le chapitre. Étonnamment, dans l'Évangile de Luc, il fait appel à la foi. On y trouve des expressions comme « Ta foi t'a sauvé » ou « Tes péchés sont pardonnés ». Jésus fait appel à la foi au cours de ses rencontres pour se présenter comme le Sauveur. Les disciples ont-ils compris le rôle du Seigneur ? Les deux disciples d'Emmaüs disent « Nous espérions qu'il était celui qui devait délivrer Israël. » Ceci indique que la plupart des disciples croyait que Jésus était venu pour sauver Israël du joug romain. À de nombreuses reprises, il est écrit que les disciples ne comprirent pas. Ne comprenez-vous pas ? Marc chapitre 8, Jésus disait à ses disciples. Et bien d'autres versets nous montrent aussi que les disciples ne comprenaient pas. En outre, les religieux de l'époque, se déclarant disciples de Moïse, refusaient de voir Jésus comme l'envoyé de Dieu, le Messie. Et par jalousie, ils cherchaient sans cesse des motifs d'accusation pour le faire condamner, afin de se débarrasser de lui. Jésus était devenu gênant, car il attirait les foules à lui et à sa doctrine. L'amour de Dieu devient une évidence pour ceux qui croient en Jésus. Trouvons en 1 Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et en plus, en 2 Pierre, chapitre 3 et verset 9, nous trouvons ce passage. Dieu est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Pour être chrétien, il faut donc nécessairement recevoir la lumière, recevoir Jésus, la lumière, dans son cœur, et passer par la repentance. La repentance, une définition est celle-ci, c'est la tristesse d'avoir commis des fautes et la douleur d'avoir offensé Dieu. Et Paul déclarera en Romains 2, « La bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Je voulais souligner une chose ici, c'est que Dieu ne fait pas de cadeaux. Il donne. Il fait un don. Un cadeau, à la rigueur, ça peut s'échanger. Mais un don, on le reçoit. Et il ne quitte plus jamais celui qui a reçu un don aussi merveilleux que celui de la délivrance de ses péchés, du salut de Dieu. Le discours de Pierre en acte 2 est sans appel quant à la culpabilité du peuple. Je lis en acte 2 et au verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme qui a été accrédité de la part de Dieu devant vous par des miracles, les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, vous l'avez cloué à une croix et vous l'avez fait périr par la main d'homme inique. Lui, Dieu, l'a ressuscité. » Et un peu plus bas, nous lirons en acte, toujours le même chapitre 2 et au verset 37. « Quand les Israélites entendirent ces paroles, ils eurent le cœur transpercé et demandèrent « Que ferons-nous ?» Pierre répondit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car c'est pour vous qu'est la promesse, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera à lui. » Dieu promet sa faveur à ceux dont la tristesse des péchés les conduit vers son pardon, sa paix et la vie éternelle. La présence de l'Esprit-Saint, comme on le sait, le chapitre 2, nous montre la descente de l'Esprit-Saint, de la promesse du Seigneur sur le peuple. La puissance de l'Esprit à ce moment est tellement grande qu'elle convainc 5000 personnes qui se soumettent volontairement à ce geste public, le baptême. Notre témoignage en tant que chrétien nous fait bénéficier nos enfants, nos amis, notre prochain, de cette bonne nouvelle et de ses conséquences. Rien moins que la vie éternelle. D'aucuns disent qu'on peut perdre la foi. Je ne crois pas. On peut perdre la vie éternelle. Impossible. Si elle nous a été donnée, si elle est éternelle, comment peut-on la perdre? C'est sûr que nous pouvons être ses ambassadeurs, dont nous a parlé récemment Jean-Luc, des témoins pour le Seigneur, des témoins de sa grâce qui nous a sauvés. Mais comment pouvons-nous dire à quelqu'un que Dieu l'aime s'il n'est pas prêt à l'entendre? Comment pouvons-nous dire à quelqu'un qu'il fait quelque chose de mal s'il n'est pas prêt à écouter? Écoutons cet épisode vécu. Sur un stand de marché, je tends un évangile à un passant. Je tends un évangile à un passant avec ces mots. C'est gratuit. Je ne veux pas croire en Jésus-Christ parce que j'ai été trompé et volé par un chrétien. Quelqu'un qui se disait chrétien, répondit-il vivement. Est-ce vraiment la seule raison? Oui. Vous permettez que je l'écrive sur mon carnet de bord? Bien sûr, je vous l'écris moi-même. J'arrache alors la feuille, je la lui remets en disant, gardez ce billet, vous le donnerez à Dieu quand vous comparaîtrez devant lui le jour du jugement. À peine au bout de l'allée, cet homme revient avec le papier en main. « Mon excuse n'est pas valable, dit-il. Ce n'est qu'une parade. » En conclusion, cet homme a confié sa vie à Dieu. Est-ce qu'on donne l'impression d'enfoncer des portes ouvertes? Je ne le crois pas. Ce témoignage est toujours d'actualité et par l'onction de l'Esprit de Dieu, des milliers de personnes se tournent encore aujourd'hui vers le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque cherche à donner un sens à la vie, à sa vie, viendra inévitablement à Dieu. Tout simplement parce que Dieu est plus grand que tout. Il est l'infini. Toute autre chose, pourrions-nous croire que le Seigneur est indifférent à nos interrogations, à nos difficultés, voire à nos détresses? Isaïe déclare, une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de ses entrailles? Même celles-là oublieront. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Écoutons cet autre témoignage intitulé « Sous les bombes ». Une jeune étudiante allemande avait entendu l'Évangile plus d'une fois, mais son cœur était resté fermé. Elle voulait vivre sa vie, et c'est ce qu'elle fit, jusqu'au jour terrible du grand bombardement de Hambourg pendant la dernière guerre. En quelques heures, un gigantesque incendie ravagea la ville en ruine. Dans sa fuite éperdue, la jeune fille trouva refuge dans l'église luthérienne d'un village voisin, avec quelques autres personnes. Ces pauvres gens, qui avaient tout perdu, pleuraient et se lamentaient. Le pasteur vint les voir, écouta leurs plaintes et comprit leur détresse, puis il demanda un peu de silence. Mes chers amis, en vous écoutant, j'ai entendu au milieu de vos plaintes, que je comprends, une phrase dont j'aimerais vous parler. Quelqu'un de vous a dit « Dieu nous a abandonnés ». Ce n'est pas vrai. Vous vous trompez. Voici la vérité, c'est nous qui avons abandonné Dieu. Il nous faut considérer un domaine plus important encore. Le Seigneur nous veut à son image et nous transforme. Il nous forme. Il nous forme et nous transforme pour y parvenir. Alors nous trouvons dans Joël, chapitre 14, cette injonction « Revenez à l'Éternel ». Dites-lui « Pardonne toute iniquité et nous te rendrons les sacrifices de nos lèvres. » Demandons sincèrement pardon à Dieu, individuellement et en Église, et il nous recevra. Je vais aborder un autre point, celui des avertissements que le Seigneur nous lance. Les prophètes Ézéchiel et Jérémie, d'ailleurs, ont été de la part de Dieu des sentinelles pour avertir le peuple. Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël, dit Dieu en Ézéchiel 3, verset 17. Et au chapitre 2, verset 7, tu leur diras mes paroles. Et il dira trois fois cette injonction que je vais vous lire. Tu leur diras mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien. Et au verset 5, eux, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien, tu leur parleras et tu leur diras, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien. Toi, parle-leur. Toi, parle-leur. Le Seigneur ne parle pas en vain. S'il est riche en amour, il est sévère dans ses exigences. Dieu parle une fois et deux fois et on n'y prend pas garde, nous dit Job au chapitre 33. Le peuple choisi a souvent négligé les avertissements de l'Éternel. Combien de fois il a été adouci les rebelles aux recommandations de son Dieu. Nous sommes témoins de sévères conséquences qui se sont abattues sur ce peuple choisi. Combien d'exils. Dieu offre son pardon, un pardon absolument gratuit. Deux mots suffisent, Pardon, Seigneur, exprimé d'un cœur qui est touché par la grâce de Dieu, qui reconnaît qu'il est pécheur devant Dieu, qu'il a besoin de son pardon, s'exprime ainsi vraiment. Et le Seigneur nous rend, nous veut et nous rend entièrement libres. Écoutons cet exemple vécu. Qui est véritablement libre? Bernard Palissy, céramiste renommé du temps de la Renaissance, fut emprisonné par le Parlement à cause de sa foi. Le roi Henri II souhaitait préserver la vie de cet homme, car il était le seul capable de fabriquer de magnifiques vases. Mais ni les menaces, ni les promesses n'eurent d'effet sur le prisonnier qui refusa absolument de le nier sa foi. Le roi en personne alla à la prison pour obliger qu'il se rétracte. « Si vous ne le faites pas, ajouta le roi, je serai moi-même obligé de vous condamner à mort. »« Majesté, répondit Palissy, est-ce que j'entends le roi de France dire « Je serai obligé de faire quelque chose ?»« Je ne suis qu'un pauvre artiste, l'un des plus humbles sujets de votre majesté. Et je suis maintenant prisonnier. Cependant, aucune puissance dans le monde entier ne pourrait me forcer à agir contre ma conscience. Vous êtes l'un des souverains les plus puissants de la terre, et pourtant vous parlez d'être forcé à faire quelque chose. Majesté, lequel de nous deux est réellement libre? Un dernier point à partager ensemble. Nous trouvons dans l'épître de Pierre, au premier chapitre, et au verset 19, nous allons le lire ensemble et essayer de le graver dans nos cœurs. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 19. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Nous ne céderons pas à la peur. Le Seigneur lui-même nous dit en Jean 14 que votre cœur ne soit pas troublé. Le Seigneur lui-même nous dit « Je viens bientôt, attendez ma venue. » L'entendons-nous? Et en Apocalypse 22, le Seigneur dit « Moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. » Voilà comment le Seigneur s'y prend pour nous maintenir en éveil. Il nous rappelle de ce passage de Marc 13, « Ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. » En conclusion, être un vrai chrétien, c'est avoir Jésus pour modèle et mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pas. Avoir une espérance vivante, se savoir aimer de Dieu et à apprendre à aimer comme lui. Amen.
L'épouse dans sa gloire.